Bonsoir tout le monde. Merci de vous être dérangé par ce beau temps. Renaud Cojo, qui est à mon côté, va poser quelques questions et intervenir à propos du livre. Je voudrais quand même faire un petit préambule. Ce qui fait que Sylvie, Martini, Jean Hubert sont là, Renaud est là, et moi-même, est dû à quelque chose d'assez curieux, que je voudrais juste décrire un petit peu. Phénomène que, à la suite d'un écrit du XVIIe, j'appelle la sérendipité, concept qui a été repris aussi par les Anglais, à savoir cette capacité que nous avons à, ou non, à nous saisir des signes et qui adviennent. Et c'est donc dans une advenue que les choses se sont passées. J'avais écrit et j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, des textes, des romans, etc. Et j'étais depuis de nombreuses années dans ce que je pourrais appeler les années sombres. Ce qui ne m'empêchait pas d'écrire, au prix quelquefois de troubles de santé majeurs, mais j'ai toujours écrit tous les jours. Et il y a très longtemps, en 1994, Renaud, qui était de son côté dans le milieu théâtral, et moi dans un autre, nous connaissions pas, mais nous avions entendu parler l'un de l'autre. Et j'avais entendu parler plus précisément, il m'avait fallu pour ça aller au Québec pour entendre la confirmation de la place qu'avait Renaud dans le monde théâtral aquitain et français. Et puis le temps a passé, et à la faveur de l'adaptation d'un ouvrage de Stoker que vous connaissez, qui est Dracula, adaptation donc, que j'ai co-signée avec Yvan Blanc-L'Œil pour le TNBA, Renaud a joué là-dedans. J'avais enfin l'opportunité physique, temporelle et laborieuse de pouvoir parler avec lui. Et c'est une personne et c'est un metteur en scène, les deux, que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Dans mon propos, quand je dis que j'aime beaucoup, c'est un euphémisme. Et je travaillais donc sur un texte auquel j'avais donné un titre de travail qui était « Sémaphore ». Je voudrais juste expliquer un petit peu la genèse de ça. Ça commençait, vous savez, avec les émeutes dans les années 90, et puis en 99, et puis en 2005, il y a eu des tas d'émeutes. Et je me posais la question de savoir pourquoi les personnes qui étaient là et les jeunes gens qui étaient là flambaient, c'est-à-dire allumaient des feux. Et j'ai pensé qu'il s'agissait là de sémaphores, c'est-à-dire d'un ensemble de signes qu'on ne peut comprendre que si on a les codes, signes non-verbaux. Et puis, à la faveur d'une expérience, avec les adolescents, et aussi à la faveur d'une longue réflexion, en tout cas, de savoir quel était le meilleur moyen de rendre compte et de réfléchir sur le destin au sens extérieur, c'est-à-dire le fatum, le destin interne, la nanké. La question était toujours là. Alors j'écrivais autre chose, hein. J'écrivais des pièces, j'écrivais des textes, mais la question était là. Et puis un beau jour, alors qu'il y avait plusieurs choses en chantier, une voix s'est imposée qui était celle de Sylvie, qui est un personnage dans ce roman, Le Dernier Contingent. Et cette Sylvie en question s'est mise à parler de la traversée de la place qu'il y a entre l'hôpital Saint-André et le tribunal. Et j'ai tout arrêté donc pour prendre la plume ailleurs, sur d'autres papiers, et j'ai donc écrit Le Dernier Contingent, partout où je pouvais l'écrire, dans le désordre, enfin pas dans le désordre, je voulais écrire quelque chose qui pouvait être lu dans n'importe quel sens. Et puis, arrivé à un certain stade, je me suis rendu compte qu'il fallait que le lecteur ait une mémoire prodigieuse pour pouvoir s'y retrouver. J'ai donc tout repris. Et bien sûr, vous savez, quand on reprend des séquences et qu'on les monte dans un autre ordre, il y a des séquences qu'on doit éliminer, d'autres qu'il faut écrire. C'est ce qui s'est passé pour le dernier contingent. Je dois dire, dans un état un peu particulier, mais qui est aussi un état que je connais bien, qui peut être particulier pour les autres, mais qui est un état que je connais bien, qui est un état un peu hypnoïde, un peu hallucinatoire. J'avais donc qu'à recopier ce que les voix me dictaient. Voilà. Alors, ça a donné un texte qui était le dernier contingent. Et ce texte, on parlera peut-être des difficultés qu'il y a eu pour le...
Ah oui, tu m'as raconté ça.
Voilà. Et puis, un jour, grâce au Dieu, car je suis plutôt un athée polythéiste, j'en ai parlé à Renaud, à la faveur d'un travail qu'il avait fait sur un texte qui s'appelle « Sniper ». Et moi qui suis un béotien social, j'ai une grande capacité, pour ceux qui me connaissent, de sociabilité. J'étais donc dans mon bureau à travailler, je ne connaissais pas, je lui ai demandé d'où ça venait. Et il m'a indiqué les éditions Tristram. Et pour la première fois de ma vie, je dis bien pour la première fois de ma vie d'écrivain, j'ai téléphoné à un éditeur. Je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai donc téléphoné à un éditeur et j'ai eu Jean Hubert au téléphone. Nous avons conversé et puis je lui ai envoyé le texte. Et quelques temps après, les choses ont commencé à s'installer. C'est pour moi une rencontre immense, à la fois sur le plan de la lumière que ça m'a apporté et que m'apportent les relations que j'ai avec eux, mais aussi l'arrêt et la clôture d'un tunnel. Qui est-ce qu'il est, que je retraverserai s'il fallait le faire, mais qui a donné le dernier contingent. Voilà. Voilà un peu la genèse, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais voilà la genèse de cet ouvrage. Alors, je laisse la parole maintenant à Renaud Cougeot.
Non, juste pour faire suite à ton introduction, à ton préambule, qui est déjà en soi presque une conférence. Moi, simplement, le regard que j'avais sur ton travail et les éditions de Tristram, il n'est pas hasardeux. Ça vient depuis bien longtemps, où j'avais, dans les années 80, je crois, écouté ce texte de Novarina lu par André Marcon, « Le discours aux animaux ». Je connaissais les écrits de Novarina, mais je ne connaissais pas la voix de Novarina, en tout cas de Marcon, et ça m'a donné l'occasion plus tard de monter un texte de Novarina qui était pour Louis de Funès. Et puis évidemment, le sniper de Pavelak, qui a produit chez moi une secousse de lecteur et une secousse de metteur en scène. Et donc je me disais que ce serait peut-être bien qu'Alain puisse exprimer, ou en tout cas trouver les moyens de faire entendre aussi, ou de faire lire en tout cas ce texte. Puisque tu me disais tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y a eu 56 éditeurs qui ont refusé ce texte.
Oui.
Voilà, je trouve ça massif, important. Oui, oui. Et ça marque bien, effectivement, l'endroit où tu te trouvais au moment où tu as rencontré les éditions Tristram.
Oui, puisque le dernier roman qui est sorti, c'était Fiction et compagnie, à l'époque, j'insiste, de Denis Roche. Et c'était en janvier 2003. Et par la suite, ça a été le blackout.
Donc on va aborder donc le présent texte du dernier contingent dont Alain m'avait gentiment passé un des premiers exemplaires il y a quelques semaines. Donc j'ai pris ce texte, ce joli pavé à bras-le-corps en déplacement, en tournée. J'ai comme ça parcouru ces voix intérieures qui, moi aussi, d'une certaine façon, m'ont parlé. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance, c'est toujours la question qu'on peut se poser quand on introduit comme ça un texte, en tout cas un ouvrage, si beaucoup de personnes parmi vous ont lu cet ouvrage ou pas. L'intérêt, ça serait peut-être effectivement de partager un moment ensemble, et dans une deuxième partie de la rencontre, de poser des questions à Alain Julien sur son travail d'auteur et à la fois sur ce texte d'une façon plus particulière. Je vais synthétiser très brièvement, moi, ce que j'en ai lu, puis après on abordera un certain nombre de questions qui nous permettront de généraliser aussi sur le statut d'auteur aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'écrire et qu'est-ce qu'écrire de cette façon. Et tout ça fera peut-être écho à votre propre travail de lecteur, puisqu'il y a une évidence, en tout cas dans cet ouvrage, c'est que ce texte, ces textes, cet enchaînement de textes, donne le loisir d'un travail très important pour le lecteur, qui est celui, effectivement, à un moment donné, aussi, d'une certaine façon, d'auteur. Et ça, c'est une condition qui, moi, me fascine toujours quand je découvre comme ça le travail écrit. Donc, nous sommes dans une aventure qui conduit à un groupe de six jeunes adolescents. On appellerait ça aujourd'hui des marginaux, voire des déshérités. Moi, j'ai plus volontairement l'envie de dire des désaimés. Hein. Ce sont des gens dont on apprend assez vite qu'ils ne sont pas aimés à la fois par leur famille et peut-être aussi par les structures qui sont chargées de les encadrer. Et ces six adolescents vont pendant 12 semaines traverser une espèce de d'engrenage assez sourd et qui sera de moins en moins sourd de plus en plus dans l'avancée du récit. Et la violence est latente, la violence est très présente et dont les ressorts originels sont dus à la fois aux démissions que l'on peut connaître aujourd'hui dans le système éducatif, les relations que peuvent tirer que peuvent entretenir les parents avec leurs enfants et du système éducatif en général. C'est un projet littéraire dans lequel la violence est très présente, le sexe également. Donc on sait bien que le sexe et la violence sont très intimement liés, en tout cas dans ce récit, ils le sont. Et j'aimerais bien effectivement t'entendre parler un petit peu de ça. Et on est dans une position de lecteur de succession de monologues qui sont, comme tu le dis, des voix intérieures. Alors moi, peut-être pas en tant que metteur en scène, mais en tant que lecteur de cet ouvrage, j'ai la sensation comme ça d'un oratorio dans lequel effectivement ces voix se répondent, ces voix se succèdent les unes aux autres avec comme ça des points de suspension qui sont laissés à la fin du récit et qui entretiennent chez le lecteur comme ça une mise en haleine, en tout cas la façon dont tu tiens le lecteur en haleine sur le récit des uns et des autres, dans cet enchevêtrement, me permet de penser qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'oratorio, en tout cas qui ne s'en écarte pas. Dans cette idée de contingence, il y a pour moi quelque chose qui résonne avec la notion d'urgence. Je souhaitais t'entendre, Alain, sur le geste d'écriture pour toi. Est-ce que dans cet acte de poser ton écriture dans cet ouvrage, il y a la question de l'urgence qui est pour toi une urgence qui se situe plutôt dans une volonté politique ou dans une volonté d'auteur de littérature?
Je me souviens pas avoir écrit des textes sans urgence politique. Je veux dire par là que... Alors... Il faut que je reprenne à propos des... Bon, ce livre, c'est... Si j'avais à dire sur quoi j'ai écrit, je dis que j'écris sur le destin et que je choisis de parler de la vacuité sociale actuelle et de la responsabilité des adultes en utilisant les voies de la révolte qui sont les voies adolescentes. Bon. D'autre part, l'urgence pour moi, c'était... que de plus en plus, je constate que, ou bien on parle sur les adolescents, c'est-à-dire que, et sur les enfants, parce que je, enfants et adolescents, c'est-à-dire qu'on les efface au profit d'une narrativité, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme objet narratif, mais on parle sur eux, mais il y a... C'est assez dit. Ou bien il y a un auteur tout puissant qui utilise les adolescents pour raconter une histoire. Mais pour moi, il s'agissait d'une urgence qui était d'abord, en tout cas dans l'acte littéraire, de donner la parole, c'est-à-dire de faire que je m'efface, qu'autant que possible je puisse travailler en résonance avec nécessairement ce que j'ai vécu ou ce que d'autres personnes ont vécu, bien évidemment. Mais de telle manière que quelque chose advienne en me colletant à l'ordre du langage. Ça, c'est l'acte, c'est à la fois l'acte d'urgence littéraire et l'acte d'urgence politique. Alors, je voudrais un peu entrer dans les et m'expliquer. Roland Barthes a, à propos de la langue, une expression qui est superbe. Il dit « la langue est éminemment fasciste ». Ce qu'il explicite, et je suis absolument d'accord avec cela, ma chance pour moi, c'est que je suis né après, donc je cite. Mais le principal travail que j'opère, c'est d'étudier les disparitions et les modalités du langage. Conjointement à tout le travail d'écriture que je fais, j'étudie ce qui a disparu au fur et à mesure des siècles, convaincu, absolument convaincu, comme on peut avoir la foi, hein, que là, la répressivité s'exprime. C'est-à-dire qu'elle s'exprime dans la philologie, à savoir l'évolution même des mots, et elle s'exprime aussi dans la répression sémantique. D'où le fait que j'ai recours de plus en plus à une expansivité de vocabulaire qui va devenir sans pitié petit à petit, à savoir qu'il faudra peut-être lire avec un dictionnaire, mais tant pis.
Ouais, voilà.
Oui. Donc là, il y a une urgence littéraire. Et l'urgence politique, c'est que c'est en écho avec ce qui se passe. C'est important, ce rapprochement entre les deux.
C'est ça, parce que bon, pour les gens qui n'ont pas lu ce texte, il y a malgré tout, dans ce projet d'écriture, même si le projet n'est pas anticipé comme un plan d'attaque,
exactement,
pour un auteur,
oui, c'est pas anticipé.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence dans la façon d'écrire, c'est-à-dire que ce sont majoritairement des phrases courtes, parfois très courtes, parfois l'emploi d'un mot qui, de toute façon, place le lecteur dans une position aussi d'auteur, puisque c'est lui qui fabrique l'idée de représentation par rapport à ce texte. Et c'est ça qui, effectivement, ouvre à cette urgence dont tu parles,
oui.
C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est, en tout cas techniquement pour toi, je pense, très au point.
Oui, tout à fait. Et à partir du moment où le lecteur a la possibilité de fabriquer une signification, il est lui-même en train de recréer quelque chose qui est les brèches dans le langage. Il y a par exemple une modalité totalitaire dans l'ordre du langage de l'adolescent, c'est de penser que les adolescents parlent d'une certaine manière. Il n'y a pas une manière de parler des adolescents.
C'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai que quand je lis l'ouvrage, je me dis que toi-même, ayant été jeune, il y a des projections sémantiques ou de vocabulaire qui peut-être ne seraient pas justes aujourd'hui. Mais peu importe. Finalement,
peu importe. Oui.
Finalement, peu importe.
Oui, peu importe. Alors là, il s'agissait un des points de perspective de la fabrication du texte, c'était... Alors même que dans l'écriture, c'était un flot. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de... Enfin, je ne vais pas montrer les manuscrits, mais il n'y a jamais eu de ratures ou enfin, de choses comme ça. Après, c'est un travail de peaufinage. Mais le rapport au texte est un rapport qui avait comme point de perspective d'arriver à produire un texte qui soit un peu hors temps. C'est-à-dire qu'il puisse être lu aussi bien par des personnes qui ont 60 ou 70 ans, avec une évocation particulière par rapport à certaines...
Même dans des expressions utilisées.
Voilà, hein, même dans les expressions utilisées.
Le capitaux qui revient beaucoup, c'est quelque... Enfin, voilà.
Voilà, chose, voilà. Chose... Et puis aussi maintenant. Hein. Bon, alors c'est difficile d'introduire dans un roman, parler en louche-bème tout le temps. De toute façon, même les adolescents ne comprennent pas le louche-bème. C'est tellement compliqué que... Bon, mais le louche-bème, c'est beaucoup plus difficile que le verlan. Mais c'est d'une richesse prodigieuse. Il y a des transformations. C'est une production. Le louche-bème, ça consiste à remplacer au début d'un mot, enfin chaque mot qui a une consonne, pardon, de remplacer cette consonne par la lettre L, puis de donner le mot et de renvoyer la première consonne à la fin du mot en la clôturant par B ou BEM ou BOU ou BA, etc. Bon. Et c'était le louche-bème, ça veut dire boucher. Hein. Voilà, louche-bème signifie boucher. Voilà. Il y a donc un charcutage de la langue, effectivement. Et ça c'est la castration, si je peux dire, que je m'opère, c'est-à-dire que je m'empêche de mettre ça dans... J'en mets pas trop, quoi. Mais il faut en même temps
provoquer un fracas à la fois dans l'expression littéraire, mais aussi dans ce qui est dit. Voilà. Tu parlais du sexe. On va en parler, oui. Si on peut pas.
Vas-y, oui. Alors, la question du sexe, elle vient après la question donc, de l'écriture comme une urgence politique.
Je trouve bien l'oratorio, c'est une jolie image. Hein,
pour oui, ça parle comme ça, mais évidemment, après, ça peut parler de plein de façons différentes. Parce qu'encore une fois, la position du lecteur, je pense qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie conscience du lecteur quand tu écris oui. de cette façon-là. C'est-à-dire que tu laisses la place au lecteur aussi de générer, de fabriquer la représentation. Et du coup, de lui mettre en face aussi la question de la monstruosité par rapport à la violence, par rapport au sexe. Et ça, cette question, elle est présente aussi dans un texte comme celui de Pavelak. Donc je retrouve cette chose-là. Donc on aborde le projet politique, on aborde le projet poétique, puisque évidemment, peut-être que tu as des choses à dire par rapport à ça, la question du poème aussi, puisqu'on parle d'oratorio, puisqu'on parle de la forme. Dans l'utilisation de la langue que tu fabriques, la langue que tu inventes, il y a cette chose très présente qui est l'idée du poème aussi, qui est très fluctuant, qui est évident, qui n'est pas saisissable peut-être de façon immédiate, mais en tout cas qui est là.
Alors là.
Et du coup, on en viendra donc à la question de la poétique, c'est-à-dire ouais. ta place d'auteur dans le geste de création. Comment ça vient? D'où ça vient? Alors la question du sexe ça viendra bien sûr, mais ces questions-là voilà, font écho peut-être à ma lecture.
Alors, sur la fonction poétique, c'est, avant de venir, là, je lisais un papier sur la poésie et je me disais, mais c'est quand même incroyable que des gens s'instaurent poètes. Moi, je trouve ça m'ébobie tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « je suis poète ». Voilà. De la même manière que des gens peuvent dire « je suis artiste ». J'avoue que ça m'assoit. Bon, alors je suis peut-être un dinosaure ou je suis peut-être en avance, mais ça m'assoit. Au sens que on n'a rien à décider de la fonction poétique, tu vois. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en saisit dans une tiercéité, qui fabrique quelque chose qui, pour lui, fait épiphanie. Donc, le rapport poétique est un rapport qui, dans ce colleté sans arrêt au fracas de la langue et au fracas du langage, avec ce qu'il impose comme règle, etc., tordre la syntaxe, eh bien, c'est un travail très risqué. Ça a l'air de rien, mais c'est un travail risqué. Et tordre la syntaxe pour aboutir petit à petit, phrase par phrase, un des prochains textes est bâti sur les structures musicales. Ça se voit pas, bien évidemment, mais est bâti sur des structures musicales de phrases uniquement. C'est-à-dire que, bah, apparemment, on verra rien du tout.
Non.
Voilà. Et ici, il y a des passages entiers qui sont bâtis sur des structures de récurrence poétique, travailler sur l'idée finale pour la renvoyer au début, travailler sur le rythme. Et ce rythme et de la musique, etc., pour ceux qui ont fait un peu de musique, on pourra me comprendre facilement. À un moment donné, si vous faites durer une note sur un clavier suffisamment, ou ce que vous voudrez, ben peu importe, vous allez avoir éprouvé une sorte de nécessité d'obliquer vers quelque chose. Alors c'est assez curieux, parce qu'une note, ça appartient au moins à 12 tonalités. Et petit à petit, va s'instaurer quelque chose qui est de cette tonalité-là. Voilà. Donc cette capacité à pouvoir saisir en soi, dans une grande vitesse, puisque c'est la vitesse du stylo, à pouvoir saisir en soi cette épiphanie poétique, il y a là quelque chose qui, forcément, ne peut pas être mené au bout, puisque au moment où l'épiphanie se produit, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et la laisser raisonner. Donc c'est le lecteur qui va s'en emparer ou pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semble extrêmement difficile de penser à un moment donné qu'on va tout décrire et que le lecteur va rester pris dans une perceptivité qui est prédéterminée par l'auteur. Là, on est plutôt vers la poétique. Hein. Voilà. Donc, on va vers cette question poétique. Je disais il y a quelque temps que moi, ce que j'écris, c'est ce que j'ai envie de lire. Voilà. Ce qui me pousse à écrire, c'est parce que j'ai envie de lire quelque chose. Voilà. Et donc, je produis quelque chose que j'ai envie de lire. Donc il n'y a même pas de calcul éditorial, par exemple, etc. Non, j'écris quelque chose que j'ai envie de lire. Donc, il y a dans un premier temps...
Tu es tenace, parce que pour avoir essuyé 56 refus, oui. Il y a quelque chose de fort, quand même.
Ah oui, mais je suis plus que tenace. C'est... J'ai connu de telles catastrophes que j'ai traversées que c'est plus de la ténacité, tu vois, c'est une libido pathologique. Il y a quelque chose de la pulsion là, qui fait, comme on dit, l'énergie, quoi. Et l'action poétique... Il m'est arrivé, par exemple, pour m'amuser, de faire des textes que j'appelle des textes d'application, tu vois, c'est-à-dire que je travaille sur une rhétorique, etc. Voilà. Bon, ça va, quoi. Hein, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, le texte rhétorique, là, on voit les choses, c'est pas très intéressant. Je veux dire, quand on écoute, par exemple, le Scherzo, la neuvième de Beethoven, ou des choses comme ça. À un moment donné, on arrête d'essayer de comprendre, quoi. C'est-à-dire que on peut le décortiquer quand on lit la partition, on voit comment c'est écrit. Non,
c'est pour ça que je reviens à l'idée du souffle par rapport à l'écriture. Voilà. C'est-à-dire que tu parles de musique, tu parles de technique musicale,
oui.
À laquelle je suis moi très étranger, mais ce qui fait écho à ce que tu dis, c'est cette idée de souffle. C'est donc cette idée de voix intérieure, et la musique est d'abord du rythme. Et effectivement, en ce sens-là, la composition telle que je la perçois dans ma lecture est très rythmée. C'est à cet endroit-là que je voulais t'entendre parler de mise en place de la poésie dont on parlait tout à l'heure. Tu dis à propos, j'ai lu ça, je ne sais plus où, je l'ai entendu, à propos de ce livre-là précisément, que c'est une fiction littéraire. C'est une fiction non détachée du réel, mais réappropriée par la réalité.
C'est ça.
Est-ce que tu peux donner des clés par rapport à ça, un tout petit peu?
Bon, alors, mouvement de principe qui me fait jeter à la poubelle, comme c'est le cas depuis quelques années, c'est-à-dire j'en suis à 1000 pages jetées, là, à peu près, ou 2000 pages. Donc j'ai un stock, comme ça, de 17 000 pages. Donc je suis en train d'en jeter par milliers.
Il faut faire les poubelles près de chez toi. Donc.
Mais tout ce qui ne m'apparaît pas comme digne d'une parabole est inintéressant pour moi. Alors bien sûr, j'ai en tête comme ça des arrière-plans, tu vois, de quand j'étais petit, qui je lisais, c'est forcément là, quoi. Hein. Bon,
Référents.
Hein?
Les référents.
Les référents, ouais.
Référents qui sont quand même dans le livre, je crois que c'est Malide hein, qui a ces référents qui sont très présents.
Et c'est sûr qu'il me fallait un personnage.
Dans alors lequel celui-là, tu puisses
dans lequel je...
les événements personnels.
Oui, oui. Malide, c'est un peu l'amplifone, c'est un peu parce que alors Malide, c'est parmi le lot des adolescents, celui qui est cultivé, et il a lu Camus, etc. Mais en même temps, j'en ai rencontré comme ça. Je me souviens d'un voyage quand j'étais moi-même adolescent, j'étais parti faire un travail de sur un chantier, tu vois. J'étais à Antibes et j'avais c'était au sorti. En plus, j'avais fait une crise de paludisme toute la nuit, tout seul dans les WC. Je sors de la crise de paludisme, et puis j'avais 17 ans. Et donc, j'étais lessivé, comme tu peux le penser. Et puis, il y avait un arabe qui était là, qui avait à peu près mon âge, 18 ou 19 ans. Et donc, qui n'avait pas de feu. Donc. Et moi, j'avais du feu, lui, il avait des cigarettes. Donc, on s'est assis. Et comme j'étais littéralement épuisé, on a fumé des cigarettes en parlant de l'Algérie. Voilà, ça c'est une jolie scène pour moi que j'ai jamais oubliée de ma vie. Et puis il est parti, et puis on s'est dit au revoir, et puis terminé quoi. Et en même temps pas terminé puisque j'en parle, comme dit Faulkner, et je suis alors absolument d'accord, mais sans aucune réserve là-dessus, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Et là donc, voilà un exemple bien propre à imager les rapports fiction. Narrativité. C'est-à-dire que on peut dire, tiens, il raconte une histoire, c'est une fiction, mais tout ce qu'on dit est une fiction. Mais il faudrait s'entendre sur le mot fiction. Fiction, ça veut dire feindre. C'est-à-dire que je vais feindre, je vais utiliser un arsenal d'images, de représentations, enfin, je ne veux pas ennuyer tout le monde là avec ça, parce que si je suis lancé, c'est... Bon, de représentations, disons, qui font que ça va faire une histoire. Mais il ne faut pas que ça soit une histoire comme une histoire parmi tant d'autres. Tout est là, quoi. C'est-à-dire de faire, à un moment donné, qu'il y ait un tel degré de signification, de significativité, qu'on peut se l'approprier comme si ça devenait une sorte de mythe. Une sorte de fable. Fable et mythe, c'est pas tout à fait pareil.
Et hein, on se l'approprie de mieux ici, à Bordeaux, puisque effectivement, ton roman se passe entre cette ville, les Charentes, Angoulême, et puis les bords de Blaye, enfin, les îles.
Alors d'ailleurs, les événements. Et je décris une île. Ça se passe après l'inauguration du pont Bacalan. On ne sait pas quand.
Un jour.
Et je décris des manifestations qui vont se produire à propos de l'élargissement de la rocade. On verra bien. Mais je dis ça parce qu'en arrière-plan, j'avais dit dans une interview à propos de J'irai seul, ils descendront de la Kabylie, ils seront des milliers et envahiront la plaine. Je rentre à la maison, 3 mois après, j'apprends que les Kabyles descendaient. Ils sont descendus par milliers. Je ferme la parenthèse. C'est ça, se laisser enseigner par les signes. Ce n'est pas une prédictivité de Cassandre, c'est se laisser enseigner par les signes, c'est-à-dire se soumettre à ce qui se passe. Donc, effectivement, il y a le pont Bacalan. Tout ce que je raconte est vrai.
Mais attends, oui, je ne suis pas allé voir du côté du marché des grands hommes au 7e sous-sol.
La seule chose, tout ce que je raconte est vrai. C'est-à-dire que je l'ai vécu, personnellement. Mais je ne l'ai pas vécu, personnellement. C'est-à-dire que tout ce que je raconte est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est une histoire vraie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la scène qui se passe à Saint-Émilion, dans laquelle les prostituées sont maltraitées à coups de bouteille de champagne, c'est une scène qui est authentique, qui s'est passée en 1964. La scène de la partouze qui se passe cours de l'intendance, c'est une scène que j'ai connue. Pas parce que j'étais à la partouze, parce que tout simplement à l'époque j'étais routier et déménageur, et que j'ai déménagé ces gens-là, qui m'ont raconté la partouze. Alors, ça veut dire quoi ? Forcément, je n'y étais pas. Et aurais-je été avec une caméra, vous savez tous comme moi, que même ce qu'on montre, c'est pas ça. Le témoignage, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà l'appui où on s'ancre. Moi, je ne crois absolument pas à la créativité ex nihilo. Ça, je ne crois pas. Je veux dire, même Mozart avait, sans jeu de mots, des fondements. Hein ? Comme chacun sait, Mozart était un grand scatologue qui adorait les blagues à ce niveau-là. Bon, je renverse, et qui faisait des inversions de langage. Je renverse la... Voilà. Donc, ça, c'est l'ancrage. Ce que je dis à propos de l'hôpital psychiatrique est absolument vrai. Mais ce n'est pas les mêmes époques. Et c'est là que pour moi s'instaure la fable. C'est-à-dire que quand Homère... C'est la première leçon que j'ai tirée quand j'étais enfant. Hein, j'avais écrit une rédaction qui avait fait le tour de la ville. J'étais au cours moyen 2, j'avais 9 ans, et je décrivais l'histoire d'une route qui avait des strates. Et donc, tous les gens qui passaient sur cette route revivaient ce qu'ont vécu les gens qui étaient... Voilà, donc j'avais fait une grosse rédaction pour un petit bonhomme comme ça, qui était énorme. Je me souviens, il y avait 4 doubles feuilles, l'instituteur me disait, mais qu'est-ce que tu... Puis quand il a commencé à le lire, enfin bon... Et en arrière-plan, j'avais l'Iliade. À 9 ans, je connaissais l'Iliade. Je n'avais pas lu toute l'Iliade, mais je connaissais les grands principes de l'Iliade. Et il y avait quelque chose qui m'avait absolument écrasé dans l'Iliade. Mais écrasé. C'était le combat d'Achille contre le fleuve, et c'était le catalogue des nefs. 50 ans plus tard, je relis l'Iliade intégralement pour la énième fois, mais cette fois-ci, et encore dernièrement, un soir, à la maison, je prends mon crayon et je fais le compte des soldats qu'il y avait pour l'Iliade et des nefs. Ulcéré par ce que j'entendais à la radio où les gens disaient « mais ils étaient très peu », etc. Partant de l'idée que Il y avait un type qui s'appelait Homère ou des Homères, enfin on ne va pas rentrer dans cette question, qui nous raconte quelque chose dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas de passé. C'est-à-dire que c'est autant présent à mon âme et à mon esprit que ça l'a été à l'époque, avec encore plus de force, puisque j'ai plus de mots, plus de vocabulaire, donc plus de résonance lexicale, tu vois. Donc c'est ça, le rapport fiction-réalité, c'est ça. Donc une fable. Quand Faulkner écrit Parabole, qui pour moi est l'aboutissement du travail d'écriture de William Faulkner, quand il écrit Parabole, il écrit Parabole. Il copie, alors il prend en arrière-plan la structure narrative des 12 des évangiles, etc., comme moi je prends la structure narrative des 12 stations. Il ne faut pas se tromper, quand Malide descend les bras en croix et profère l'histoire de l'humanité, bien évidemment qu'on est dans une séquence absolument christique, etc. J'aurais pu l'appeler Emmanuel, hein, Malide. Mais enfin, bon, il y avait un côté bronzé, et il s'appelle Malide. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais.
Quelque part entre la 12e station et...
Voilà.
Et le jugement final. Non, je ne sais pas si déjà dans ce que dit Alain, Julien, ça fait écho à votre travail de lecteur. Hein, c'est comme ça que c'est s'il y a déjà des questions par rapport à ça. Est-ce que tu veux te saisir de cette question du sexe?
Peut-être que personne ne l'a lu. Oui, je vais me saisir du sexe, avec plaisir.
Puisqu'on a abordé ça d'une façon tout à fait...
Alors,
sous-entendu. Puisqu'on a quand même parmi ces six jeunes personnes deux figures de la prostitution d'aujourd'hui, une figure masculine, voilà. Une figure féminine, dont peut-être tu peux nous parler un petit peu.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan dans mes strates que j'ai comme toujours, j'écris, je réfléchis pas à la structure et après, boum. Je travaille. Il y a un roman que vous devez connaître qui, dans l'histoire de la littérature, c'est-à-dire dans l'histoire, c'est-à-dire, comme j'en parlais récemment aussi, ce mensonge accepté par tout le monde, comme le disait Napoléon, je fais une grande différence entre l'histoire de la pensée et l'histoire de la littérature. C'est-à-dire, pour moi, il y a des penseurs qui n'ont jamais été connus parce qu'on ne les a pas publiés. Et puis, il y a l'histoire des publications. Et on est devant de grandes différences. Il n'y a qu'à voir les rapports qu'il y a eu entre Ératosthène et puis après les tenants de Ptolémée. C'est-à-dire comment, finalement, c'est plutôt le centre, la planète Terre, qui servait de centre du monde plutôt que ce qu'avait soulevé Ératosthène. Bon. Alors... pour revenir après au XVIIe, et ça durait des siècles. Ou bien comment Vésale arrive au XVIe siècle à voir les quatre cavités cardiaques, chose qu'on voyait, il suffisait de dépecer un peu, il le voyait, mais la théorie permet... Enfin, c'est passionnant, ces problèmes, quoi. C'est-à-dire que c'est la théorie, comme disait Einstein, c'est la théorie qui oriente le télescope. Ce qui fait que la science elle-même est une fabrication fictionnelle. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais comme on est à l'intérieur de ça, ça c'est très cohérent, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, en arrière-plan, dans l'histoire de la littérature, il y a le premier roman qui est pour moi le Satyricon de Pétrone. Voilà. Donc, il y a longtemps, j'avais 12 ans, je lis le Satyricon. Et là, je tombe sur des histoires de gitons, de rapports curieux qui se passaient dans les immeubles, etc. Ce truc. Néron, je savais que c'était pas un excité du cortex, mais enfin un chaud de l'arrière-cale. Et donc, mais quand même, quoi. Après, à 15 ans, je m'y suis remis, compensé par ça, par l'ascétisme de Kafka, tu vois. C'était... ça venait caler les choses, là. Voilà. Donc, le Satyricon. En arrière-plan, il est évident que je trouve des traces toujours dans ce que je fais, et effectivement, dans mon travail, en tout cas, parce que c'est un travail, mais pas au sens du labeur, quoi, il y a toujours un rapport violence-sexe, ça c'est clair. Mm-hmm. Ça c'est sûr. Voilà. Mais non pas l'objet sexe en tant que matraque. C'est parce que quand on a une jeune fille qui peut être brûlée vive... dans un local poubelle, auquel je fais allusion, parce qu'elle s'est refusée, comme on dit en français. Elle s'est refusée. On peut réfléchir sur ces phrases. Ça veut dire qu'on peut se donner. On peut y réfléchir là-dessus aussi. Hein ? Toujours est-il que quand cette jeune fille, elle est brûlée vive, dans un local poubelle, on voit tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir la culture, tu vois, d'aller voir Salaud, Pasolini, on n'a pas besoin de tout ça. Tout de suite, là, c'est pas la peine d'avoir lu, d'avoir vu des films, etc. Le sexe, la violence, le fascisme, l'autotolétarisme, même combat. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Après, on peut retracer avec cet appareil à lecture toute l'histoire des conquêtes. Tamerlan, les Huns, la guerre de Serbie, tout ce qu'on voudra. Et moi, je pourrais en raconter des visus. Pour les avoir vécus en Algérie, c'est toujours sexe, violence. Parce que c'est l'endroit, les nazis, enfin, je passe. Parce que c'est là que se passe la déshumanisation. C'est-à-dire que au moment où on fait surgir que, je dis bien, que le sexe, on court-circuite le rapport qu'a la personne au désir. Parce que le désir, s'il est total, on sait où ça mène, c'est la jouissance masochiste, etc. On en meurt de ça. Mais s'il n'y a pas une distance par rapport à ce désir, c'est-à-dire si on n'est que acte de désir, bon, on fait pas long feu. Par exemple, on a envie de bouffer, c'est La Grande Bouffe, qui est un film extraordinaire. Voilà. Donc, mais c'est pour érotiser ça, il faut bien mettre du sexe dans la pratique de la bouffe à ce moment-là. Donc, le sexe en tant que pratique est une pratique d'asservissement. C'est la vraie pratique d'asservissement. Les humains ne s'y sont pas trompés. C'est, et hélas, ça sera toujours comme ça. Ce qui me fait dire à un endroit dans une pièce de théâtre, la civilisation n'est pas encore là. C'est pour ça aussi que ce livre est une urgence. Et la civilisation n'est pas encore là. Elle sera là, je cite le personnage, lorsque une jeune fille, une fille, belle, pas belle, une fille pourra se promener dans les rues sous n'importe quelle latitude, sous n'importe quelle longitude, à 11h du soir dans une rue sans éclairage. Et l'autre lui dit, eh ben, c'est pas demain la veille. Et je pense effectivement que c'est pas demain la veille. Et la littérature a cette fonction, tu vois, pour moi. Donc, la violence...
On revient à la question du politique qu'on avait tout à
l'heure. Absolument. Violence, sexe, politique. Après, si on veut écrire... Bon, Sade, qui est l'auteur officiel, si je peux dire... Il y en a eu d'autres avant. Mais bon, pour moi, c'est un sommet. Mais bien sûr, il y a une pornographie quasi... comment je pourrais dire, c'est pas les 11 000 verges. Les 11 000 verges, c'est la pornographie anti-anatomique. C'est-à-dire qu'il lui sort les tripes, tout ça. Bon. Mais si on prend les... tiens, ça va faire plaisir à Jean-Hubert. Les mémoires d'une jeune fille viennoise de Joséphine Munzenberger, c'est ça, je ne me trompe pas. Ça, c'est un livre que j'aurais aimé écrire. Hein. Parce qu'il n'y a pas de violence, mais c'est vraiment de la bonne chair, quoi, à tous les sens du terme. Ceux qui n'ont pas lu cet ouvrage, il faut le lire. C'est, voilà, c'est enthousiaste. Et ça se termine, c'est là une femme qui parle à un homme, hein. Ça se termine, j'essaye de... Oui. Vous nous foutez, nous sommes foutus. C'est là toute la différence. En français, on dit on est foutu.
Oui.
Celle-là, j'aurais aimé l'écrire, tu vois. C'est, vous nous foutez, nous sommes foutus.
Alors, ça rejoint la...
Et pas soumise, pas soumis, pas asservi.
Oui, oui. Oui. La question des figures, puisque tu dis également, j'ai entendu ça, que quand tu cites Flaubert, d'ailleurs, à cet endroit-là, tu dis... Quand j'écris pour chacun des personnages, c'est moi que je cite à chaque fois. J'ai entendu quelque chose comme ça,
hein, ouais.
Il n'y a pas longtemps. Quand tu écris pour Manon, quand tu écris pour Malide,
alors, oui.
Il y a quelque chose qui est à cet endroit aussi.
Oui. Manon et Malide sont deux personnages. Alors, Manon, c'est un ange. C'est pour ça qu'elle ne meurt pas. Mais on peut très bien ne pas se servir de cette représentation dans le livre. Ce n'est pas un problème. On peut la décrire que comme une jolie prostituée, qui est indépendante, qui pratique au 7e cercle du marché des grands hommes, c'est ça ? Et oui, je c'est là-bas.
Pas, c'est pas moi qui ai
c'est en bas là-bas. Non, mais c'est là-bas. C'est... Non, parce c'est, que je suis un peu. C'est... Et voilà.
C'est derrière toi.
Donc elle est au 7e cercle. Bon, chacun associera la comédie qu'il voudra. Et puis, ça, c'est quelque chose. Pour les avoir connus, beaucoup, les prostituées, hommes et femmes, au sens de les avoir connus dans leur déréliction. Pour avoir connu la chasse à la prostitution masculine en 1973-74, place des Quinconces, où des jeunes garçons et des jeunes filles, mais je parle des garçons cette fois-ci, venaient se prostituer pour servir de repas aux administratifs qui étaient dans le quartier, qui venaient se les faire entre midi et deux. Pour en avoir connu qui se sont pendus, pour en avoir connu des cultivés comme Malide, la première chose, ces personnages se sont imposés, font retour. Il n'y a pas de passé.
Il n'y a pas de passé, mais il y a quand même une mémoire.
Il y a une mémoire. Comme je dis, la mémoire, c'est l'enfer. Malide et Manon, pour moi, rendent justice à un autre mode de connaissance que celui de l'abstrait, que celui de la logique conceptuelle, un mode de connaissance du sensitif. Et Manon et Malide parlent de ce mode de connaissance du sensitif, dont qui est toujours mis à l'écart, peut-être plus en France qu'ailleurs, mais qui est toujours mis à l'écart parce que la connaissance relève du concept. Eh bien, il y a un mode de connaissance qui relève de quelque chose qui est de l'intuit, de l'insight, comme disent les Anglais ou disaient les Norvégiens, c'est-à-dire quelque chose qui est ce reflet, cette cassure, ça vient de là, cette cassure sur la glace de la lumière qui fait diffracter. Hein. Où est la signification ? Est-ce que la vérité de la lumière, c'est le rayon lumineux qui va percuter le prisme, ou est-ce que c'est ce qui résulte du prisme, ou les deux ? Donc, en introduisant, bien évidemment, là, la chronologie. Donc, Manon et Malide sont deux personnages qui ont la connaissance du sensitif. Cette connaissance qu'a l'enfant et qu'il perd opprimé par l'adulte. J'insiste. Qui perd opprimé par l'adulte, par l'irrespect fondamental dans lequel nos enfants baignent, et nos enfants de la société, de la cité, hein, baignent, noyés, s'embouer. Voilà. Ça, c'est l'urgence. Et en même temps, je montre comment cette sensitivité peut à un moment donné s'accrocher. Je ne montre pas, je raconte comment cette sensitivité peut s'accrocher à des concepts, tu vois, de la littérature, comme chez Malide, et au sensitif, au sensoriel, comme chez Manon. Mais Manon qui a une connaissance. Voilà, elle connaît la vanité. Elle le dit à la fin.
Oui, oui.
Elle connaît la vanité. C'est-à-dire, ce sont deux mélancoliques, hein. Au sens Aristote, quoi. Enfin, c'est des créateurs, quoi. Bon, ouais, enfin, je veux pas.
Voilà, alors, est-ce que je crois que le. Quelle heure est-il ?
Je ne sais pas. 7 heures.
7 heures, voilà. Peut-être qu'il est temps de.
Mais peut-être que personne ne l'a lu.
Je n'en sais rien.
Il y a des personnes qui l'ont lu ici. Michel, Monsieur Lavidali, oui.
Mais même si on n'est pas lecteur de la chose dont on vient de parler, est-ce que sur le discours, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir éclaircies IES ou pas, ou peut-être des questions qui jaillissent de l'entretien, de cette jeunesse on peut-être approfondir après le sujet, hein, puisque tu pointes le doigt sur une espèce de responsabilisation dans l'urgence de dire qui est de faire ce constat que la jeunesse aujourd'hui, elle est une partie de la jeunesse en tout cas, est-ce qu'elle est parce qu'il y a un manque cruel à la fois de quelque chose qui est parti, hein, du côté de chez les parents. Il y a quelque chose qui n'est plus là, qui se met en place difficilement. Il y a quelque chose que tu dénonces à cet endroit-là. Est-ce que c'est de ça dont tu veux peut-être parler si la lecture n'est pas efficiente pour tout le monde? Est-ce que cette chose-là, peut-être on peut en parler un petit peu?
Oui, puis...
Parce que la question du manque de respect aussi, alors ça, oui. Une question importante.
Alors là, tu touches à un des vecteurs. C'est après coup qu'on sait. Hein, je me souviens de Beethoven dans le quatuor qui s'intitule La Grande Fugue. Il écrit quatuor, tout ça, puis il s'aperçoit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Pourtant, il avait mis le paquet, quoi. Hein. Mais un peu trop, quoi. Alors, il réécrit entièrement le troisième mouvement. Il réécrit pour qu'il y ait un peu de monde. Puis j'ai trouvé ça chez Beaumarchais aussi. Alors Beaumarchais, il n'y a pas assez de monde, alors il va taquiner la pièce, il recommence. Puis Mozart, ah, ça vous plaît pas, ou je vous en refais un autre. Pas grave. Mais en attendant, il gardait. Et maintenant, on joue la Grande Fugue, etc., grâce aussi aux musiciens, bon, etc. Je veux dire quoi, là? Je veux dire que, quelquefois, une production discursive, que ce soit la littérature, la musique, le théâtre, est une production qui nécessite toujours un regard. Ma position, c'est l'auteur doit être mort. Donc, je regarde toujours avec cette question de la mort. C'est-à-dire, j'écris toujours avec cette question. Hein ? C'est-à-dire que ça fait quand même reconsidérer tous les matins où je suis surpris d'être en vie, et ce n'est pas de la coquetterie, où je regarde ce que j'ai fait. Ça fait le tri. Hein ?
Même quand tu dis qu'il n'y a pas de passé.
Même quand je dis qu'il n'y a pas de passé. C'est-à-dire, c'est quoi, ça ? Si je vois trop de vanité, autant que je peux la noter, j'élimine. Mais je sais que c'est en arrière-plan parce que il y a des textes comme ça qui m'ont bouleversé dans la pensée. Hein, voilà, l'Ecclésiaste est un texte qui m'a bouleversé. Bon, alors quand on parle de cette question de lire après coup ce qu'on fait. Inévitablement, on s'oriente après, au fur et à mesure qu'on écrit, vers certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'un des vecteurs qui venait sans arrêt dans ce que j'écrivais, c'est la défection des pères et l'épuisement des mères. Sans arrêt, c'est ça. C'est un thème chez moi qui est pas obsédant, qui est récurrent. Donc, qui prend des formes diverses, etc. Il y en a d'autres, mais...
Est-ce que ce constat que tu fais, c'est un constat que tu fais aussi dans ta profession ?
Oui, alors c'est un constat que je fais dans ma profession, mais, enfin, une de mes professions, mais bon, parce que c'est vrai que ce n'est pas une profession, être écrivain. C'est plutôt une manière d'être. Et je disais à une photographe, je n'ai pas de profession, je suis un être qui pratique certaines choses, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas la profession que je peux utiliser. Ça aussi, c'est quelque chose qui, à force de... À un moment donné, il faut vivre ce qu'on pense, quoi. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on n'est pas du tout un métier ni une profession. On est d'abord un être, et c'est mon être qui nourrit mon travail éventuel.
Mais non, bien sûr.
Voilà.
Mais
ça, c'est important.
Le constat, c'est-à-dire que tu fais...
Alors oui, le constat, d'auteur. Oui, sans aucun doute. Mais cette défection des pères, on la voit partout. Quand à Bordeaux, on a construit les aubiers, déjà les pompiers avertissent qu'il ne faut pas construire au-dessus de 6 étages. Déjà ça. En 73, j'avais suggéré qu'on construise en proposition urbaniste à Libourne, parce que c'était aux maires et aux députés que je m'adressais, qu'on construise des séries de petits villages où il y a des points de rassemblement. C'est-à-dire qu'au lieu de construire en intensivité, qu'on construise en extensivité. Les enfants, dont je m'occupais déjà, puisque j'étais dans la rue, j'ai travaillé avec des délinquants dans la rue, les enfants se trouvent dans des situations qui sont lesquelles ? Un, on leur fait croire que le virtuel et le réel, c'est la même chose. Deux,
au moment où ils n'ont pas ce virtuel, par exemple, la possibilité d'être en contact dans cette immédiateté qui s'appelle le téléphone mobile, ce virtuel et cette abolition même de l'imaginaire se retrouvent chez tous les gens. Combien de personnes sont là à envoyer un mail, à téléphoner pour demander s'ils ont reçu le mail, persuadés que l'autre passe sa vie devant son ordinateur et va répondre immédiatement? Il y a quelque chose d'un virtuel, c'est-à-dire il n'y a pas... On est dans ce que disait Paul Valéry à propos de la distinction entre le besoin et le désir. Le désir relève, alors je ne le cite pas là, hein, je résume. Le désir relève du côté de l'éternité, le besoin est éminemment fini et il va se reprendre. De la même manière que notre conscience est une conscience non pas en continu mais en pointilliste. Ça c'est majeur dans la création littéraire à piger Victor Hugo. Je me suis rendu compte que j'avais le même truc. C'est-à-dire que quand j'écris, je tire un trait pour savoir où je me suis arrêté dans la journée. Parce que je fais confiance dans cette fluidité interne entre deux jours pour retrouver la linéarité du texte. Alors, la défection des pères et la fatigue des mères, elle est là tout le temps. Elle est dans une société qui fait que le gosse, et encore ici, ils sont peut-être assez bien lotis, mais on veut, je ne crois pas. On a des enfants qui se lèvent à 6h, 6h30 du matin, qui vont à l'école déjà ensommeillés, qui n'ont même pas le temps de fabriquer un reste du sommeil, je dirais, qui sont bousculés, balancés directement dans une immédiateté de la vigilance, avec des parents qui traînent, qui sont en colère, qui sont déjà dans la rancœur, des enfants qui restent aux garderies jusqu'à 16h, 17h, 18h, et qui se retrouvent, je vais en parler, qui se retrouvent actuellement dans l'éducation nationale avec un interdit de goûter à 10h, parce qu'il ne faut pas faire de différence entre certains modes de culture, alors que beaucoup de personnes ici ont connu quand même ces temps particuliers qu'on avait à l'école, où on allait prendre le goûter avec l'instit, etc. Et voilà, ça c'est fait.
C'est une question d'obésité, des choses comme ça aussi.
Voilà, oui. C'est vrai qu'on a des politiques qui ont une pensée obèse maintenant.
Ouais.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là où le volume, on prend le volume pour du muscle. Non, ça c'est un vrai problème, effectivement. Donc la défection des pères, elle est où? J'entendais ce matin Jox qui disait sur France Culture qu'il s'occupe des tribunaux, etc. Et il disait, dans la délinquance, on a au tribunal très peu de filles, proportionnellement, et un tiers des garçons n'ont pas de père, c'est-à-dire, moi je dirais, absence du procréateur, parce que je ne fais pas de superposition entre le procréateur et le père. Pour moi, il n'y en a pas. Et le deuxième tiers, c'est... qu'il y a des pères, alors soit qui se sont taillés, soit qui castagnent, etc. Et on a, et il disait, quelles que soient les structures sociales auxquelles on a affaire, quelles que soient les productions familiales auxquelles on a affaire, c'est les mères qui sont là. Donc, il y a quelque chose... Épuisées, il faut voir dans quel état elles sont. Bon. Donc, on a là un vrai problème, et je dirais même que le maternel, à ce moment-là, va disparaître, parce que ces pauvres femmes... Je ne suis pas dans la compassion. Je dis ces pauvres femmes au sens du paupère, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus que soi, il faut tenir comme on peut. Eh bien, ces pauvres femmes n'ont même plus de maternelle parce qu'elles sont obligées de jouer les deux fonctions. Donc, on fait des enfants, on les produit, au bout de 3 mois, on les fout à la crèche, structurés par des groupes qui eux-mêmes travaillent, foutent leurs propres enfants à la crèche, etc. Donc, on est dans une déréliction absolue du rapport qu'a la société à ses enfants. Et ma position, qui est violente, c'est que la structure sociale, le social, ne respecte pas ses enfants. On est dans une production de chair à canon, qu'on peut appeler maintenant chair à produire, de la chair à ce qu'on voudra, mais on n'est pas dans un respect des enfants. C'est-à-dire que le social ne tient pas compte du fait qu'il y a des enfants qui ont un développement particulier, etc. On a quand même des politiques depuis des années et des années qui se pointent comme ça, incultes, incultes et qui se permettent de parler comme ça, des gosses, etc. Alors voilà, les enfants, ça apprend comme ça. Tout d'un coup, il y a un ministre qui change, il y a le technocrate boutonneux de service qui n'a jamais rien connu que ses parents et Elena, et qui, pour qui le monde est une représentation virtuelle, et qui va dire, eh ben voilà, les enfants, maintenant, ça va savoir lire à tel âge, ou bien ça va... Ça... Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais c'est des cons. Cette violence, c'est là... La destructivité des modalités de savoir, c'est, ça passe par l'imposition d'une langue politique, tu vois. Voilà. Donc les gosses, maintenant, ben voilà, alors on met en place ça, à trois mois, on va placer le mouflet, etc., etc. Je ne suis pas en train de parler des fondements même de ça. Je suis en train de parler des attitudes sociales à l'égard de sa progéniture, comme disaient les Grecs, à l'égard de la techné, c'est-à-dire à l'égard des descendants. Il y a un irrespect absolu. Alors comment veut-on que des enfants qui ne sont pas respectés, des enfants qui sont violentés, des enfants qui vivent avec des parents, chez qui aussi le virtuel et le réel n'est pas toujours différencié, tu vois, et qui, oh, je l'ai touché. Moi, j'ai connu, j'ai rencontré des mères qui masturbaient leurs enfants pour les initier. Hein. Alors... comment veut-on que ces enfants, quand ils ont la force des adolescents, est-ce qu'on arrive à comprendre ce que peut être la revendication d'un enfant dans les muscles adolescents? Ça donne ça. Mm-hmm. Ça allume des feux. Merci.
Je crois qu'on va être malgré tout tenu de rentrer dans un cadre qui est celui de la librairie. Donc je pense qu'on en a fini de la rencontre. Si évidemment vous avez des questions à poser à Alain, ça peut se passer à l'extérieur, voire
c'est froid.
Au parking des grands hommes, je ne sais pas. Et merci à tout le monde en tout cas, et merci Alain.
Merci.